Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média, même si, avec le confinement, cette notion de semaine devient pour le moins flottante. Au menu aujourd'hui, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Vous allez me dire, c'est tous les jours. Nous, on va parler aujourd'hui humour en vidéo et plat mijoté en cuisine. Nous sommes ensemble pour une heure et demie en direct. Il y aura évidemment le journal des médias de Cyril La Carrière et le journal de la culture d'Hélène Manarino. Notre infomédia, la crise à Presstalis, le principal distributeur de presse en France, s'est déclaré lundi en cessation de paiement. Question, et s'il n'y avait bientôt plus de quotidien ni de magazine dans les kiosques, faute d'infrastructures pour les acheminer? Réponse dans quelques minutes. Nos invités ensuite, avec une thématique fortuite. Quand on aime, on a toujours 20 ans, vous connaissez le proverbe. Donc, nos invités. La chaîne Public Sénat fête demain ses 20 ans et nous serons avec son président Emmanuel Kessler. Et puis, la comédienne Michèle Larocque pour une pièce inédite en télé et très réussie, Elle s'aime au pluriel, avec Muriel Robin. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril La Carrière.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias. Qu'est-ce que vous avez au menu ce matin, Cyril?
Ce matin, nous parlons de la télé qui se refait la cerise grâce au confinement, de Disney qui réalise que les femmes existent, oui, de Reworld Media qui se met à la vidéo, et on terminera par une grande, grande opération évasion.
Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Philippe, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par le podium, mais par la performance d'Arte hier soir. Sa nouvelle série Dérapage avec Eric Cantona a attiré plus de 2 200 000 téléspectateurs. Oh. Un démarrage canon et qui ne s'est pas démenti au fil de la diffusion. Le deuxième épisode a même été plus suivi que le premier. Les Français aiment décidément toujours leur Eric Cantona.
Et Cyril, donc maintenant le top 3 de la soirée d'hier.
Loin, très très loin de l'univers de Dérapage, c'est TF1 et la 7e compagnie au clair de lune qui remporte le match de la soirée. Ouais. Plus de 6 400 000 téléspectateurs, c'est quasiment 25%.
C'est incroyable, c'était une rediff, non?
Non, c'est une nouveauté. C'est
d'accord,
une
d'accord.
Derrière, comme chaque jeudi, c'est la série de M6, Why Women Kill, avec près de 3 600 000 téléspectateurs. Et enfin, France 3 avec le film 9 mois ferme, qui se situe à près de 2 700 000 téléspectateurs. Et à noter, Philippe, qu'hier soir, en nombre de téléspectateurs, qui veut gagner des millions à la maison sur TF1, est passé d'une courte tête devant Tous en cuisine avec Cyril Lignac sur M6, mais... Tout au long de la diffusion de l'émission de Lignac, la courbe d'audience de M6 devance toujours celle de TF1. Le match combat Lignac est lui bien lancé.
Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias avec Médiamétrie qui a révélé hier les chiffres de la consommation télé, chiffres qui ont explosé depuis le 17 mars.
Depuis le confinement, nous regardons en moyenne la télévision 4h43 par jour, c'est 1h15 de plus qu'il y a un an à la même époque. Une hausse spectaculaire et évidemment totalement inédite, qui se voit d'ailleurs surtout chez les plus jeunes, les 15-24 ans, ceux dont on dit et répète qu'ils s'éloignent du poste de télévision. Et bien depuis 5 semaines de confinement, leur consommation de la télévision a augmenté de quasiment 70%. Une autre chose qui a changé, c'est l'heure de pic de consommation de la télé. Aujourd'hui, 29 800 000 Français regardent la télévision à 20h30, un pic auparavant situé à 21h15.
Et alors côté programme, Cyril, qu'est-ce que ça donne ?
On en parle souvent en début de journal avec les audiences. Les carrefours d'information sont particulièrement suivis, les allocutions, président, premier ministre. D'ailleurs, le pic de consommation dont je viens de vous parler se situe lors des JT de 20h. Mmh. Mais il n'y a pas que ces carrefours qui attirent les Français. Les quatre chaînes d'information en continu réalisent ensemble 7,9% de part d'audience. C'est 3 points de plus qu'un an auparavant. Et c'est encore, et bien sûr, toujours BFM TV qui mène largement la course aux audiences devant ses concurrentes. Et si on évoque souvent les scores des talk shows ou des films patrimoniaux, Médiamétrie rappelle qu'en ces temps de confinement et de fermeture des lieux culturels, les Français trouvent une offre alternative à la télé. Une soirée Beethoven sur Arte, le ballet Gisèle sur France 5 et l'opéra Rigoletto sur TF1, avec, selon Médiamétrie, des scores d'audience significatifs par rapport à une salle de concert ou d'opéra.
Voilà, et Beethoven, la musique classique, pas le gros chien poilu. On va passer chez les plateformes vidéo maintenant avec Disney qui continue d'exploiter le filon Star Wars.
Avec cette fois une nouveauté. On a souvent dit que les femmes étaient largement ignorées dans l'univers Star Wars, et c'est vrai qu'à part la princesse Leia, les personnages féminins ne sont pas légion. Eh bien, changement cette fois, Disney a décidé de lancer une nouvelle production pour sa plateforme Disney+. Cette nouvelle série sera dirigée par une femme, et l'histoire dans l'univers de la Guerre des Étoiles sera vue du point de vue d'une femme, voire de plusieurs femmes. 43 ans après la sortie du premier film de la saga, on peut dire qu'il était temps.
Ah oui, 43 ans. Cyril, en reste du côté des plateformes avec un nouveau service de vidéo à la demande qui fait son apparition en France.
Je vous parle ce matin de la naissance de Guerre et Histoire TV. Alors ok, on est loin de l'imaginaire de Disney, mais si vous êtes amateur de ce genre, vous allez être servi. À l'origine, Guerre et Histoire, c'est un bimestriel du groupe Reworld Media qui se vend à 200 000 exemplaires. Et ça va donc devenir une offre de vidéo à la demande vendue 4,99€ par mois. Un choix surprenant et audacieux alors que le marché est aujourd'hui, on le sait, hein, écrasé par des géants qui répondent au nom de Netflix, Amazon, Disney. Guillaume Sampic de Reworld Media nous explique comment il compte faire une place à Guerre et Histoire TV face à ces mastodontes.
Les plateformes généralistes, on va les appeler comme ça, c'est super pour toute la famille. Mais les vrais passionnés, ils veulent des choses très très pointues. On sort l'intégrale de l'épopée napoléonienne avec la voix d'André Dussolier. Là, c'est une série documentaire vraiment d'exception. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse la trouver ailleurs, j'en suis même sûr. Ça s'adresse vraiment à des populations qui sont peut-être limitées en termes de quantité, mais qui sont particulièrement assidues et au fait ces histoires de guerre notamment. Et nous, on a cette chance d'avoir des marques médias assez fortes, avec des lecteurs assidus, et donc on a cette capacité de pousser ces nouveaux médias, et notamment cette plateforme SVOD, auprès de nos lecteurs déjà, et de nos internautes. Donc ce qui réduit déjà considérablement le coût marketing. Et puis encore une fois, on s'adresse, et notamment sur Guerre Histoire, à des vrais passionnés, les lecteurs de Guerre Histoire. C'est des gens qui collectionnent les guerres histoires. Hein. Ils sont constitués des bibliothèques. Par contre, c'est des gens ultra pointus. Donc, on peut pas leur proposer n'importe quoi en termes de documentaire sur la SVOD. Et à partir du moment où on arrive à apporter quelque chose de qualité et supplémentaire par rapport au magazine, il y a de fortes chances que ça intéresse notamment cette base de lecteurs.
Habil. Et Reworld ne va pas s'arrêter là. Deux autres offres de vidéos spécialisées vont voir le jour le mois prochain. Nous deux TV et Téléstar Play.
Cyril, pour terminer votre journal, vous nous proposez un moment d'évasion.
Un moment qui devrait plaire aux passionnés de montagne, et je sais qu'il y en a parmi celles et ceux qui nous écoutent. Imaginez un peu des étendues de montagnes enneigées. Il fait froid, mais le soleil vous réchauffe le bout des doigts. Vous êtes seul avec votre ami, prêt à grimper cette montagne, vos skis sur le dos avant de la dévaler. Moi, cette idée me paraît totalement excitante pour cette période de confinement. Absolument.
Super. Voilà, monter avec les skis, hein, dis donc.
Ah, vous n'êtes pas un dur en mal, vous. C'est donc un grand moment d'évasion collective que vous convie l'équipe à partir d'aujourd'hui avec un nouvel épisode de l'équipe Explore, le magazine grand reportage du site du quotidien. Cette fois, les journalistes ont décidé de suivre deux passionnés de descente de pente raide, Vivian et Matteo, qui partent à l'assaut de 6 sommets des Alpes avant donc de les dévaler. Et ça donne une série au nom évocateur, Un printemps suspendu. Pour la petite histoire, ce nom a été choisi à l'automne dernier et la production a finalement décidé de le conserver en se disant qu'il correspondait bien à ce que nous vivons tous un peu en ce moment. Mais j'en reviens donc à nos deux dévaleurs de montagne, car quand on les voit sur ces pentes abruptes, on imagine aussi qu'il s'agit d'un défi pour les suivre et les filmer. Nous avons joint Aurélien Delfos, le réalisateur, pour qu'il nous explique comment s'est déroulé le tournage.
Pour ça, on avait choisi un mode de tournage très minimaliste. On voulait vraiment récupérer la matière brute de leur aventure et ne pas parasiter leur aventure avec un process de tournage trop important. Et donc, ils sont partis avec des petites caméras et sur 3 de ces ascensions, on a mis également un cadreur qui a un très bon niveau en montagne et en ski pour les accompagner et donner un champ supplémentaire, une vision supplémentaire.
Alors forcément, si vous confiez l'essentiel du tournage aux protagonistes, il faut aussi les former à tourner. Le réalisateur nous explique comment s'est passée la préparation avec les skieurs.
Alors évidemment, le choix de réaliser un tournage minimaliste, laissant la responsabilité des images et de la matière qu'on allait récupérer derrière aux deux personnages, sans trop savoir donc exactement ce qu'on allait récupérer, ça a des conséquences positives parce qu'on est dans l'immersif, on est au plus proche de ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas le filtre entre eux et nous, entre eux et le spectateur. Mais à côté, évidemment, eux, c'est pas des professionnels de l'image, donc il a fallu qu'on les briefe, notamment qu'on leur demande de tourner tous les deux en même temps pour avoir un double champ sur chaque action. Donc lorsque l'un des deux allumait sa caméra, eh bien l'autre devait être bien conscient que lui aussi devait allumer sa caméra. Voilà, ça a été plein de petits détails comme ça qu'on a mis au point avec eux.
L'équipe Explore, c'est un format qui marche bien. 500 000 visites par programme depuis son lancement en 2013. Et autre motif de satisfaction, la moitié de l'audience de la série se renouvelle à chaque nouvel épisode de l'équipe Explore. Emmanuel Alix, le directeur du numérique de l'équipe, nous explique les innovations de ce printemps suspendu.
Ce nouveau numéro de l'équipe Explore est également très innovant, car à l'image des jeux vidéo, il mélange à la fois la vidéo, le documentaire et la 3D en temps réel. Cela va donner la possibilité à l'utilisateur de prendre la main pour naviguer librement sur les sommets gravis et descendus par nos skieurs, de prendre le temps de retrouver leurs itinéraires précis et d'explorer eux-mêmes la montagne. Et enfin, on a pensé aussi ce programme de manière très large, car on va proposer également la musique originale d'un printemps suspendu sur les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify. Et enfin, dimanche, pour notre public le plus jeune, on va également proposer une édition spéciale sur Snapchat pour leur faire découvrir ce grand reportage.
Ouais, ils ont pensé à tout. Et Philippe, avant de conclure, je vous le disais, ils sont deux alpinistes à apparaître dans le film, Matteo Jacquemous et Vivian Bruchet. Et Vivian est un auditeur fidèle d'Europe 1 qui écoute la radio tous les jours. Il est notamment fan de la séquence de l'invité inattendu de Mathieu Béliard à 6h18. Et on m'a fait passer le message qu'il adorerait un jour être cet invité inattendu. Mathieu, si tu nous écoutes.
Mais non, mais il ne faut pas dire ça, puisque vous venez de donner son nom, donc il est plus inattendu maintenant. Ça va devenir un invité attendu. Cyril Lacarrière, vous aussi, vous êtes attendu. Ce sera lundi prochain pour votre prochain journal des médias. Là. Bon week-end en attendant. Culture Média qui continue dans un instant. L'info média du jour. Prestalis, le principal distributeur de presse en France, a déposé le bilan. Nous serons avec Frédéric Casgrain, président de la coopérative des magazines de Prestalis et également directeur de la publication de l'hebdo Marianne. Mais d'abord, et s'il n'y avait bientôt plus de quotidien ni de magazine dans nos kiosques, c'est la menace qui plane en ce moment, pas seulement à cause du coronavirus, mais également à cause du dépôt de bilan de Prestalis. Le principal distributeur de presse en France s'est déclaré lundi en cessation de paiement. L'entreprise, qui détient 75% du marché, est endettée et même très endettée, de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros au total. La procédure de redressement judiciaire avait été reportée d'un mois en raison du confinement, mais là c'est terminé. Prestalis ne peut plus reculer. Alors que va-t-il se passer? Y aura-t-il bientôt pénurie de journaux? Pour en parler, nous sommes avec Frédéric Casgrain. Bonjour.
Bonjour Philippe Bandel.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes président de la coopérative des magazines de Prestalis et vous êtes le patron de l'hebdomadaire Marianne. Alors pour qu'on comprenne bien l'enjeu qui n'est pas simple, vous êtes président de la coopérative des magazines, je le disais, c'est-à-dire d'une partie des actionnaires de Prestalis, l'autre partie étant détenue par les quotidiens. D'abord, expliquez-nous comment tout cela fonctionne.
Alors c'est un système qui fonctionne, qui date de l'après-guerre. En 1944, on met en place un système coopératif pour distribuer la presse en France. Les deux coopératives, donc l'une fonctionne avec les quotidiens, l'autre fonctionne sur les magazines. Les magazines représentent la majeure partie du chiffre d'affaires. En gros, en France, on vend à peu près une dizaine de quotidiens par point de vente par jour, alors qu'on vend à peu près une centaine de magazines par jour par point de vente. Il y a 22 000 points de vente en France. Ça vous permet de faire à peu près le calcul.
Un rapport de 1 à 10 de tête.
Exactement. Ouais. 1 à 10, il y a deux sociétés de messagerie. Hein, ouais. Il y a les messageries qu'on appelle Prestalis, qui distribuent à la fois la presse quotidienne et la presse magazine, qui représentent à peu près 60% de la presse magazine. Et vous avez une deuxième messagerie qui s'appelle les messageries lyonnaises de presse, qui, elle, représente 40% de la presse magazine en France. Voilà.
Le capital de Prestalis, si je suis bien informé, est contrôlé à 73% par les magazines et à 27% par les quotidiens. La situation complique la donne, parce que il y a cette coopérative des magazines que vous dirigez, Frédéric Casgrain, et cette coopérative des quotidien qui est menée, elle, par Louis Dreyfus, le président du directoire du groupe Le Monde. Et c'est là le nœud du problème. Il y a deux visions qui s'affrontent. Quelles sont ces visions et pourquoi s'affrontent-elles?
Alors, il y a deux visions. Pourquoi? Parce que la société Prestalis est basée sur la distribution des quotidiens. Depuis des années, les quotidiens ont fait un choix que je trouve tout à fait légitime de se tourner vers le numérique. Et de plus en plus, les quotidiens se lisent non plus sur le papier, mais de plus en plus sur leur tablette ou vos téléphones. Contrairement à la presse magazine, qui n'a pas fait cette mue numérique, la presse magazine, la variation sur le numérique est autour de 6%, 7%.
Ah oui, c'est peu.
C'est peu. Alors que les magazines, les quotidiens sont essentiellement lus maintenant en numérique. Donc on a un système qui est basé sur la distribution des quotidiens, qui est une distribution qui coûte extrêmement cher. Donc on se retrouve dans une situation maintenant qui est catastrophique, une vraie, c'est un drame pour tout un secteur d'activité. Et la vision que nous avons dans la presse magazine, c'est de dire on ne peut pas continuer tout seul. Il faut absolument que les deux sociétés de messagerie, les MLP et Presstalis, se rassemblent et puissent former une seule société de messagerie et puissent distribuer sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'on est plus fort quand on est deux que lorsque nous sommes seuls. Et on peut toujours replâtrer la situation de Presstalis en faisant des réformes comme on fait régulièrement tous les deux ans. Mais si on ne s'allie pas avec une autre société de messagerie, qu'on ne crée pas une seule et unique société de messagerie, on ira à la catastrophe de toute manière.
Mais vous voulez dire que les magazines sont pour un point de vue, donc vous êtes pour rassembler les MLP, les messageries lyonnaises de presse et Presstalis, et que du côté des quotidiens, ils ne sont pas d'accord avec cette solution?
Moi, je suis pour rassembler l'ensemble des types de presse, que ce soit les quotidiens, les magazines, sur une seule messagerie.
D'accord.
Les quotidiens ne sont pas d'accord pour des raisons qui les regardent. Ils estiment que socialement, auprès des différents syndicats, ce n'est pas acceptable. Je pense que notre rôle, nous, éditeurs de presse, c'est d'avoir une pérennité de notre système de distribution et une sérénité quant au paiement de nos factures
et nos créances. Alors justement, j'allais vous demander ça. Qui paye quoi pour la distribution de la presse entre les quotidiens et les magazines? Alors, est-ce que chacun, ce qui semble comme ça, chacun paye sa part et son quota, ou pas du tout? C'est plus complexe que ça.
C'est beaucoup plus complexe que ça. Les quotidiens coûtent beaucoup plus cher à distribuer et en cela, ils sont énormément aidés par l'État. L'État donne énormément de subventions pour la distribution des quotidiens. La presse magazine ne bénéficie pas d'autant du tout, d'ailleurs, d'autant de subventions. Mais il me semble normal que l'État puisse aider les quotidiens d'information politique et générale à être distribués. Mais d'une certaine manière, nous, presse magazine, on n'a pas non plus les moyens de sponsoriser en permanence la distribution des quotidiens. Ouais. Donc, si on est plusieurs, si on rassemble tous les magazines et qu'on arrivera peut-être à couvrir une partie des frais des quotidiens, mais là-dessus, les frais sont beaucoup trop importants pour les quotidiens. Vous imaginez bien que quand on vend plus que 9 ou 10 quotidiens par jour dans un point de vente, acheminer chaque nuit ces quotidiens dans les points de vente représente un coût prohibitif. Donc on doit s'unir, tous les titres de presse doivent s'unir sous une seule société de messagerie.
Voilà, et on comprend évidemment pourquoi eux sont pour le statu quo et chacun défend son point de vue, et ce qui est absolument normal, au sens c'est dans la norme. Vous avez négocié longuement ces dernières semaines sans que cela aboutisse à un accord. Où est-ce que ça a coincé? C'est la question que je vais vous poser, Frédéric Casgrain. Vous restez avec nous, on va parler du problème de Presstalis qui est en cessation de paiement depuis lundi, juste après ceci.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
On parle de Presstalis, le principal distributeur de presse en France, de journaux, de magazines, qui est en cessation de paiement depuis lundi. On en parle avec Frédéric Casgrain, vous êtes président de la coopérative des magazines de Presstalis et également patron de l'hebdomadaire Marianne. On en parlait, il y a deux camps, ou en tout cas deux parties qui s'opposent, la coopérative des magazines que vous dirigez et la coopérative des quotidiens menée par Louis Dreyfus, le patron du groupe Le Monde. Vous avez négocié longuement ces dernières semaines sans que cela aboutisse à un accord. Où est-ce que ça a coincé? C'est juste une question d'argent? Je dis ça, c'est juste, je ne vais pas faire le financier, mais c'est pas rien non plus une question d'argent.
Non, il n'y a pas qu'une question d'argent. L'argent rentre en ligne de compte, mais il y a peut-être aussi une vision des choses. Les magazines sont des titres qui sont souvent des titres d'entrepreneurs. Les quotidiens nationaux sont souvent des titres, la majeure partie des quotidiens nationaux sont appuyés par des grands groupes industriels. Oui. Donc, qui n'ont pas la même vision du temps que nous. Quand vous êtes appuyé par un groupe industriel important, que ce soit un groupe du luxe ou de la téléphonie, vous vous dites que vous avez l'éternité devant vous. Quand vous êtes un éditeur indépendant qui a créé son propre titre, vous vous dites que c'est votre propre argent et vous n'êtes pas sûr de pouvoir vivre le lendemain ou le surlendemain. Donc on n'a pas la même vision du temps. L'organisation de cette messagerie est pour nous une urgence. Les quotidiens pensent aussi qu'à terme, il faudra rassembler l'ensemble des titres sur la même filière, mais ils se disent, allons avec une politique de petits pas. On y verra peut-être plus clair dans 2 ans ou dans 3 ans. Moi, je pense que dans 2 ans, 3 ans, le secteur sera très abîmé et on aura peut-être le rendez-vous qui permettra de sauver cette filière. Cette filière emploie pratiquement 100 000 personnes en France, dont des marchands de journaux, 22 000, des ouvriers du livre, des distributeurs, des journalistes. Et je vous avoue franchement que c'est un véritable drame pour l'ensemble de cette filière.
On va parler d'emploi. D'abord, juste un mot à propos d'argent. Presstalis a accumulé les retards de paiement auprès des diffuseurs, les kiosques, les marchands de journaux. À combien s'élève l'ardoise pour chacun? Parce qu'il y a aussi des retards auprès de vous, éditeurs. Combien doit Presstalis à qui?
Eh bien, écoutez, le Presstalis doit 120 millions d'euros aux éditeurs de presse. Donc 120 millions d'euros, pour beaucoup de titres, c'est la mort annoncée. Ce sont des titres qui ne pourront pas se relever. La crise du Covid qui arrive en même temps accentue cette fragilité. Donc je pense qu'on va avoir des dizaines et des dizaines de titres de presse qui vont devoir fermer du fait de l'incurie de Presstalis.
Franck Riester, le ministre de la Culture et de la Communication, s'est engagé le 16 avril, c'est tout récent, à verser aux marchands de journaux ce que leur doit Presstalis, c'est-à-dire 16 millions d'euros, entre la fin du mois d'avril et début mai. Et la conciliatrice Hélène Bourboulou propose que l'État finance la moitié de la somme dont vous parliez, 120 millions. Que va-t-il se passer concrètement? Est-ce que nos journaux peuvent cesser d'être distribués, en tout cas par Presstalis, dans nos kiosques?
Alors, les journaux ne cesseront pas d'être distribués parce que la plupart des magazines choisiront de basculer peut-être au MLP pour être sûr d'être distribués. Ouais. Mais le vrai risque, c'est pour les quotidiens si on ne trouve pas une situation pérenne pour leur distribution. Alors, bien sûr, la majeure partie des titres de presse quotidienne passe sur le numérique, mais on a toujours besoin d'avoir des quotidiens chez les marchands de journaux. On a toujours besoin, bien sûr, d'avoir ces magazines. On fait vivre quand même un secteur d'activité très important en France.
Un nouveau plan de restructuration de Presstalis semble inévitable. À combien est-il estimé et combien, selon vous, d'emplois pourraient être menacés?
Écoutez, c'est le énième plan de restructuration. Ouais. Il y a 20 ans, il y avait 6000 personnes à Presstalis, il en reste 1000. Donc les plans de restructuration se succèdent au drame de toutes ces familles. Maintenant, il faut construire l'avenir et arrêter de replâtrer en permanence par plan de restructuration successif.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y avait eu un plan en 2018 auquel l'État avait consenti un prêt de 90 millions d'euros sur 5 ans. Ça n'a pas suffi. Il y a eu 230 postes supprimés. Pourtant, on a l'impression qu'il y a replâtrage sur le replâtrage, comme si le problème était beaucoup plus profond que ça, presque ontologique, pour employer un mot savant.
Oui, parce que ces replâtrages sont faits sans vision d'avenir. C'est-à-dire, on ne guérit pas. On soigne, mais on n'attaque pas le problème réel. Le problème réel, c'est cette dispersion entre deux sociétés de messagerie, ces relations mortifères, cette concurrence mortifère entre les deux sociétés de messagerie. Donc maintenant, il est temps de déposer les armes et de s'entendre entre sociétés de messagerie et d'apporter une solution pérenne pour la filière.
Évidemment, je pense à Louis Dreyfus, le patron du directeur du Monde, vous écoute. Et la partie, si j'ose dire, adverse, en même temps, on est tous ensemble dans la presse, vous écoute. Il y a une période de conciliation qui s'ouvre jusqu'au 30 avril. Quelles sont les options possibles après cette date? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer que vous n'avez pas déjà fait jusqu'ici?
Ah, mais écoutez, la conciliation, c'est de faire des négociations. C'est une négociation compliquée parce que vous avez à la fois les quotidiens, les magazines, le syndicat, la FILPAC CGT qui est présente, et l'État qui intervient. L'État joue un rôle capital. Il est extrêmement présent et je vous avoue franchement qu'il nous aide de manière formidable en ce moment. Mais on ne peut pas continuer à tendre la main à l'État en permanence depuis des années, comme on le fait depuis des années et des années. Il faut qu'on ait une véritable indépendance. La véritable indépendance dans un titre de presse, c'est l'indépendance financière. C'est de ne pas devoir dépendre ni de l'État, même d'un actionnaire. Donc là, on a vraiment, réellement besoin de trouver une solution pérenne et durable pour l'ensemble de la filière. Donc
dossier,
les négociations vont démarrer.
Dossier que nous suivrons, Frédéric Casgrain, pardon de vous couper, mais parce que l'heure tourne, dossier que nous suivrons évidemment ici dans Culture Média. Merci Frédéric Casgrain, président de la coopérative des magazines de Presstalis et patron de Marianne, d'avoir été ce matin avec nous en direct sur Europe 1. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Emmanuel Kessler, le patron de Public Sénat. Sa chaîne fête ses 20 ans. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis on va recevoir Michèle Larocque. Elle est aux côtés de Muriel Robin dans la pièce Elle s'aime, diffusée demain soir sur France 2 en partenariat avec Europe 1. Et c'est une très bonne pièce. Et je dis pas ça parce que c'est Europe. Nos indispensables, Laurent Mariotte va nous donner des nouvelles idées de recettes. Ça sera des mijotés pour tenir tout le week-end. Et puis l'humour avec le phénomène du moment sur YouTube, les goguettes. Ce sera avec Europe 1, 10h tout pile. Le flash Marguerite Lefebvre.
Les restaurateurs veulent éviter les faillites et l'effondrement de leur secteur. Ils sont en train d'en discuter avec Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement. Ces professionnels le savent, ils ne rouvriront pas le 11 mai comme les autres commerces. Ils réclament donc un plan massif pour soutenir leur filière, que les pertes d'exploitation par exemple soient prises en charge en partie par l'État et les assurances, que les mesures d'aide comme le chômage partiel soient prolongées ou encore qu'un effort spécifique soit réalisé pour sauver les plus petites structures. À partir du 11 mai, les masques devraient être obligatoires dans les transports en commun. Les premiers stocks seront distribués à partir du 4 mai. C'est ce qu'annonce la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, dans les Échos. Il s'agira de masques grand public, en tissu réutilisable. On pourra les trouver dans les pharmacies, dans les bureaux de tabac ou encore dans les grandes surfaces. Masques obligatoires donc dans les transports. Sachez qu'à Paris, la RATP envisage de rétablir 70% de son réseau à partir du 11 mai. Aujourd'hui, seuls 30% des transports fonctionnent. Par ailleurs, 50% des TGV devraient circuler au début du confinement contre moins de 10% aujourd'hui. L'Élysée l'a annoncé hier, le déconfinement ne se fera pas région par région, les consignes seront nationales. En revanche, le plan sera tout de même adapté aux spécificités locales. Voilà ce qu'a confirmé ce matin Laurent Nunes, le secrétaire d'État à l'intérieur, était l'invité d'Europe 1. En Europe, pas de plan de relance pour l'instant. Il n'y a pas eu de consensus entre les 27 États membres. Les négociations n'ont pas abouti hier, entre autres car les pays du nord de l'Europe ne veulent pas mutualiser les dettes, comme le réclament certains pays du sud, l'Italie et l'Espagne. Douchée par cet échec, la Bourse de Paris a ouvert en net repli ce matin, moins 1,44%. Le CAC repasse en dessous de la barre des 4400 points. Deux informations en sport. D'abord, Roland-Garros, dont Europe 1 est partenaire. Le tournoi de Roland-Garros est à nouveau reporté, cette fois d'une semaine. Le tournoi de tennis ne débutera pas le 20 septembre, mais le 27 septembre prochain. Et puis en athlétisme, les championnats d'Europe qui étaient prévus fin août à Paris, eux, sont purement et simplement annulés en raison du coronavirus. Enfin, c'est le début du ramadan aujourd'hui pour les musulmans. Les autorités religieuses rappellent qu'en période de confinement, les repas du soir, les ruptures du jeûne ne doivent pas provoquer de rassemblement dans les familles, comme c'est le cas traditionnellement. Il est 10h02 sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Mélanie Gomez, notre spécialiste santé, qui répond, vous le savez, toutes les heures aux questions que vous vous posez sur le coronavirus. Bonjour Mélanie.
Bonjour Marguerite, bonjour à tous.
Question de Raphaël qui habite près de Lille. Que peut-on prendre comme médicament sans aucun risque avec le coronavirus en cas de mal de tête aujourd'hui ?
Alors c'est une bonne question qui nous a été posée souvent par de nombreux migraineux, j'ai l'impression, je suppose que c'est votre cas peut-être. Il se trouve que la Société française en fait de neurologie vient d'émettre des recommandations pour ses patients. Alors en cas de crise de migraine, il préconise la chose suivante: en l'absence de symptômes évocateurs d'une infection au coronavirus, c'est-à-dire par exemple de la fièvre ou de la toux, vous pouvez poursuivre votre traitement de crise habituel en privilégiant quand même ceux de la famille des triptans et en limitant les anti-inflammatoires non stéroïdiens aux crises sévères qui résisteraient au triptan pris seul. Alors sachez aussi que les neurologues rappellent que les antalgiques comme le paracétamol ou même les opiacés peuvent aussi être utilisés si besoin. En revanche, il faut vraiment garder en tête qu'en cas de symptômes d'infection, là, c'est-à-dire en même temps qu'une migraine habituelle qui arriverait, eh bien là, il faudra vraiment stopper tous les anti-inflammatoires jusqu'à la guérison.
Merci beaucoup Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Mélanie, que l'on retrouvera toute la journée pour répondre à vos questions, celles que vous nous posez à la fois sur les réseaux sociaux en mentionnant le hashtag le mot dièse radio ouverte ou bien par téléphone, c'est au 3921. L'appel coûte 50 centimes d'euros la minute et je vous rappelle que l'intégralité du coût de ces appels sera reversée à l'Institut Pasteur.
C'était bien de le dire. Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. Merci également à Mélanie Gomez. On vous retrouve tout à l'heure à 11h. Culture Média revient dans un instant. Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. On va recevoir Emmanuel Kessler, le directeur général de Public Sénat. La chaîne fête cette année ses 20 ans d'existence. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis nous recevrons l'actrice Michèle Larocque pour la pièce Elle s'aime, c'est au pluriel. Ce sera diffusé demain soir sur France 2. C'est un partenariat Europe 1. Nos indispensables, des recettes faciles à faire et de l'humour.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Emmanuel Kessler.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le PDG de la chaîne publique Sénat, vous partagez le canal 13 de la TNT avec votre cousine LCP, Assemblée Nationale. Demain, nous sommes le 25 avril, c'est un grand jour anniversaire puisque c'est aussi l'anniversaire de la révolution des œillets au Portugal. Et demain, publique Sénat fête ses 20 ans.
Voilà, c'était il y a 20 ans, le 25 avril 2000, à 7h30, les toutes premières émissions de Public Sénat, à l'époque sur le câble et le satellite, 5 ans plus tard la TNT. J'ai d'abord une pensée pour Jean-Pierre Alcabache, vous connaissez bien Europe 1, qui a été vraiment le fondateur et le créateur de Public Sénat et qui lui a donné tout son élan.
Ouais. Le 25 avril, c'est aussi la date de la première utilisation de la guillotine et l'ouverture du périphérique. Confinement oblige, vous avez annulé la boum qui était prévue, mais vous avez conservé la programmation spéciale qui était prévue. Qu'est-ce qu'on va voir sur vos antennes ?
Alors oui, on a choisi d'être dans la tonalité de ce moment très particulier avec une des lignes de force de Public Sénat qui est le documentaire. Et donc on a sélectionné 5 documentaires marquants de l'histoire de la chaîne entre la fin des années 2000 et 2020 qui sont à la fois le reflet de notre ligne éditoriale, d'une chaîne qui prend le temps d'expliquer les sujets, qui aborde tous les problèmes sans tabou et puis qui donne à réfléchir dans cette période où on a besoin de retrouver des repères pour reconstruire demain une fois qu'on sortira de la crise.
Alors sur l'antenne, on peut voir une bande-annonce avec les 5, elle est un petit peu longue, on ne va pas tout faire entendre, on en a choisi 3 bandes-annonces.
Public Sénat a 20 ans. Nous vous proposons une soirée exceptionnelle pour redécouvrir 5 documentaires qui ont reçu de nombreuses récompenses.
Chaque mois, plusieurs centaines de Nord-Coréens tentent de fuir la dictature de Kim Jong-il et la pauvreté. Nous rencontrons 2 adolescentes. Elles risquent d'être enlevée par la mafia chinoise et vendue comme prostituée ou mariée de force.
Que savez-vous de l'usine d'alumine de Gardanne ? Savez-vous qu'elle déverse ses déchets, à terre et en mer ? Des déchets chargés en métaux lourds et en radioactivité. Les mêmes déchets gisent au fond de la mer, mais le périmètre concerné est sans commune mesure.
Ces femmes se retrouvent près de Jéricho, dans un des rares lieux où les Israéliens et les Palestiniens peuvent se rendre sans autorisation ni checkpoint. Pour la première fois dans l'histoire de ce conflit, des dizaines de milliers de femmes, juives et arabes, vont marcher ensemble.
Alors ce qu'on ne voit pas, ce sont les prix qu'ont reçus ces documentaires. Les Guerrières de la Paix, mention spéciale du jury au FIGRA 2019, Voyage en Barbarie, prix Albert Londres 2015, prix du meilleur documentaire au New York City Film Festival, faut le faire. Zone Rouge, mention spéciale du jury au FIGRA, j'ai pas fini. La Colère d'Hippocrate, Magritte du meilleur documentaire, prix du public au Festival Franco-Suisse des 5 continents. Et puis Anne, le prix de la liberté, prix Albert Londres 2009. Qu'est-ce qui a présidé au choix de ces 5 documentaires ?
Bah, on est allé voir les producteurs qui avaient travaillé avec nous. Ils l'ont fait toujours avec confiance. Nous, on a une relation très très étroite avec eux pour savoir si ces œuvres étaient disponibles, s'il y avait le bon format pour les diffuser parce que la télé a aussi évolué dans ses standards.
Bien sûr.
Et ils ont été vraiment tous partants pour que demain soir, on puisse les diffuser et offrir ça à nos téléspectateurs. Ce qui est très important, c'est que, vous voyez, on aborde des sujets difficiles qui ont trait aux droits de l'homme, à la liberté, à l'environnement. Mais il y a toujours un message d'espoir, comme dans Les Guerrières de la Paix, où on voit ces femmes israéliennes et palestiniennes qui essaient de construire quelque chose ensemble par-delà le conflit. Et ça, c'est vraiment aussi le message que nous, on veut passer. On est dans un monde qui est très difficile, on l'éprouve en ce moment, mais il y a toujours une possibilité de s'en sortir grâce à l'énergie des individus, grâce aux acteurs de terrain.
Et ça commence même, Emmanuel Kessler, demain à 18h, est-ce que vous passez un doc avec un titre énigmatique, voire contre-intuitif, surtout en cette période de confinement. Le titre, ce n'est pas une vie que de ne pas bouger. Qu'est-ce que ça raconte ?
Ah oui, alors ça c'est génial, je suis sûr que ça va vous intéresser Philippe. On est allé dénicher ce documentaire chez un producteur et un réalisateur suisse qui raconte l'histoire d'un médecin élève de Pasteur, chercheur en biologie, qui s'appelle Alexandre Yersin. C'est une star en Suisse, une star au Vietnam où il a vécu toute une partie de sa vie parce que c'était aussi un aventurier. Quel est le rapport avec ce que l'on vit ?
Ouais.
C'est que c'est lui qui a découvert et qui a permis d'éradiquer la peste. Il a découvert le bacille de la peste. Alexandre Yersin. Et c'est toute sa vie qui est racontée dans ce documentaire exceptionnel d'une heure et demie.
J'ai pris des notes parce que j'ignorais totalement son existence, j'avoue. Il est né en 1863.
Voilà, Alexandre Yersin.
Il est mort en 1943. Exactement. Et il a isolé l'agent de la peste en seulement 3 semaines. Donc pour vous dire,
D'ailleurs, le bacille a été baptisé Yersina pestis.
Ouais. Public Sénat, 20 ans, je l'ai dit. Qu'est-ce qui a le plus changé en 20 ans ? Votre chaîne ou le monde politique ?
Les deux. Ouais. Les deux, et ça va de pair parce que on s'aperçoit par exemple que dans le monde parlementaire et notamment au Sénat, ça a été d'ailleurs l'impulsion donnée par Jean-Pierre Elkabbach puis Gilles Leclerc, qui était mon prédécesseur, on a de plus en plus accepté les caméras dans tous les lieux du Parlement et toutes les commissions du Sénat et les missions d'information, les commissions d'enquête. C'était pas le cas au début, ils étaient réticents les sénateurs parce qu'ils pensaient que ça allait un peu détourner leur débat de l'objet. Et donc le téléspectateur est devenu acteur, c'est le cas en ce moment où on diffuse énormément d'auditions liées à la crise du coronavirus. Ouais. Et ça, ça a changé à la fois notre chaîne parce que on a fait que le téléspectateur finalement se rapproche des acteurs politiques que sont les parlementaires et voit vraiment leur travail en train de se faire. Et puis ça a donné tout son écho à ce Parlement, ça l'a renforcé aussi parce que le gouvernement prend beaucoup plus au sérieux le rôle de contrôle du Parlement. On l'avait vu notamment, vous le savez, on en avait parlé lors de la commission Benalla.
Mais évidemment, et qui avait fait des très très bons scores d'audience, Benalla, qui était interrogé et sans ménagement. Quand Public Sénat a démarré, vous n'étiez pas là encore, vous étiez dans un... Enfin, la chaîne se trouvait dans un local qui est devenu le salon de coiffure du Sénat, donc vous êtes agrandi quand même, on peut le dire. Je précise qu'il y a encore des chefs qui étaient là au début et qui sont toujours là, ce qui est assez rare dans le milieu des médias où parfois les carrières sont volatiles. Et alors, j'ai un signal à vous faire passer, c'est les anciens, par exemple Lise Pressac qui travaille avec nous, qui est notre rédac chef, attendent la fête pour boire des coups. Quand aura lieu la fête?
Écoutez, on va essayer de la faire dès qu'on pourra à nouveau se réunir et s'embrasser, c'est-à-dire pas tout de suite, mais j'espère quand même qu'à l'automne, on pourra faire quelque chose. Mais vous me fournissez l'occasion de rendre hommage à toutes les équipes qui se sont succédées depuis 20 ans. C'est aujourd'hui encore 65 personnes qui sont vraiment mobilisées dans tous les métiers, qui le sont en ce moment parce qu'on exerce, comme les autres chaînes de télé, notre métier dans des conditions très difficiles, avec beaucoup de gens, la majorité, l'immense majorité même, qui travaillent à distance. Et on est obligé de revoir nos grilles, nos programmes. Et tout ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas l'énergie d'une équipe. Et j'ai souvent coutume de dire qu'une chaîne de télévision, c'est d'abord une chaîne. C'est-à-dire que les métiers, vous le savez Philippe, comme en radio d'ailleurs, les gens travaillent ensemble et sinon ça ne marche pas.
Et ces gens sont absolument indispensables. Alors justement, vous venez d'en parler, la grille, qu'est-ce qui change avec le confinement sur Public Sénat? On en parle avec vous, Emmanuel Kessler, vous êtes le directeur général de Public Sénat. Vous fêtez vos 20 ans, pas les vôtres, mais ceux de la chaîne. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
La chaîne Public Sénat a 20 ans demain et nous sommes avec son président Emmanuel Kessler. Merci encore d'être avec nous en direct. À cause du confinement, évidemment, comme les autres chaînes, Public Sénat a modifié sa grille des programmes. Qu'avez-vous maintenu et quelles sont les nouveautés?
Alors, il faut bien voir que nous, notre créneau, il y a d'un côté les chaînes d'information, elles jouent leur rôle. De l'autre côté, il y a le divertissement. La grande star dans ce moment de succès de la télévision, c'est Louis de Funès qui nous permet de nous échapper.
Oh, dis donc, je
m'attendais. Et puis, il y a notre fonction à nous qui est d'éduquer sur les questions politiques et de société.
Ouais.
Et donc, on a tout réorienté dans ce sens. Avec à l'antenne, on a dû suspendre nos rendez-vous de direct. Et donc, on a toute une programmation de documentaires, de téléfilms sur des thématiques comme l'histoire, la transformation écologique, la recherche scientifique. Je vous ai parlé d'Hyersin, mais on a aussi un téléfilm sur Pasteur, un doc sur Marie Curie. Et donc ça, c'est une première ligne de force qui est très importante. Et le deuxième élément, ce sont bien sûr les auditions parlementaires. On continue bien sûr à diffuser et avoir nos équipes mobilisées pour encadrer la diffusion des questions d'actualité au gouvernement qui font plus de 300 000 téléspectateurs chaque semaine le mercredi après-midi au Sénat. Et puis on diffuse un maximum d'auditions parlementaires parce que dans cette période où le gouvernement a tous les pouvoirs, c'est important que les citoyens puissent voir le Parlement en train d'essayer de challenger, de voir ce qui se passe, de contrôler. L'autre jour, vous avez pu suivre par exemple l'audition de Jacques Toubon, le défenseur de droit, qui a insisté sur le fait que c'est bien beau d'encourager le paiement par carte bancaire, mais quand on n'en a pas, il faut s'assurer que les commerçants continuent d'accepter le paiement en espèces parce que sinon on exclut toute une partie de la population. Voilà, c'est des choses très concrètes mais très importantes parce que nous on est la chaîne du lien social, une chaîne d'utilité publique qui fait le lien entre les politiques et les Français.
Et je dois dire que vous faites partie de l'opération Nation apprenante, label créé par le ministère de l'Éducation. Racontez le principe en quelques mots.
Ben, c'est que l'ensemble de ces documentaires ont une vocation pédagogique pour les élèves, en particulier pour ce qui nous concerne les élèves de collège et de lycée. Et donc, il y a ce petit logo qui apparaît à gauche de l'écran. Et c'est vrai que quand vous suivez notre documentaire sur Louis Pasteur, vous en apprenez beaucoup sur la recherche médicale et la découverte de la vaccination, qui est un élément d'ailleurs très important pour comprendre ce qu'on recherche aujourd'hui. Nous, on cherche à donner du recul, à avoir de la profondeur, à donner du temps. Et ça, c'est à la fois important pour les adultes, mais aussi pour les jeunes.
Vous êtes aussi recentré sur le web. Il y a plusieurs émissions qu'on peut trouver sur le site publicsénat.fr. Comme tout le monde, vos audiences montent sur le web.
Oui, c'est incroyable. Alors, je vous remercie de le dire parce que tous nos journalistes, y compris les JRI, se sont mis à faire beaucoup plus de web. On travaille de chez soi, on fait du montage chez soi, on trouve des habillages, etc. Et on a reconverti en quelque sorte toutes nos émissions habituelles en version web. Et du coup, c'est vrai, notre site web explose pour regarder la revue de presse de la PQR, de la presse quotidienne régionale tous les jours. Des chroniques sur justement ce que fait le Parlement, une chronique qui s'appelle Le Monde d'après avec des experts qui décrivent leur vision du monde de demain. Pour résumer, 3 fois plus de visiteurs uniques dans les 5 semaines depuis le confinement que dans la période qui a précédé. Ça fait 1,5 million de visiteurs uniques sur la période. Autrement dit, comme d'autres médias, mais aussi avec notre particularité, justement, que je viens de vous expliquer, eh ben, on intéresse vraiment les Français qui viennent sur le site publicsénat.fr et de plus en plus sur notre chaîne YouTube et aussi via, bien sûr, les réseaux sociaux comme Facebook.
Alors, il faut le dire, depuis la rentrée, Public Sénat a un nouvel habillage, surtout un nouveau slogan, une nouvelle baseline, comme disent les gens de marketing. Des questions à toutes voilà. Vos réponses.
Alors, vous avez remarqué. Mais bon, on n'a pas d'autres mots.
Ouais, des questions à toutes vos réponses. Dites-vous, vous avez remarqué que le coronavirus, c'est l'inverse qu'on voit sur toutes les chaînes, même dans les JT. C'est des réponses aux questions. Sur Public Sénat, vous faites l'inverse. Vous balancez des questions aux réponses. Quelles questions vous vous posez avec ce confinement ?
Allez, je vais être très concret parce que c'est vrai que nous, on est la chaîne qui questionne. On est là pour donner aux gens des éléments de réflexion et de compréhension du monde dans lequel on vit. Alors, par exemple, j'ai essayé de trouver des choses qui vont vous interpeller, Philippe. Pourquoi il faut se laver absolument les mains pour contrer l'épidémie ?
Oh bah ça, on le sait.
Pas tant que ça, parce qu'il faut savoir d'où ça vient pour bien comprendre l'importance que ça a en médecine, qui est absolument décisive. Et pour ça, faut regarder Livrez-vous, demain, l'émission présentée par Guillaume Herner en partenariat avec France Culture, avec un invité de choix qui est André Dussolier, qui évoquera la thèse d'un jeune médecin consacré en 1924 à l'asepsie. Vous savez qui était ce médecin ?
Dites-le.
Je le sais. Louis Ferdinand Céline.
Ah oui, voilà. Mais c'est vrai. Mais oui, maintenant ça me revient. Vous avez absolument raison. Il me reste 30 secondes pour vous poser une question. C'est amusant de trouver d'anciennes déclarations. Le 31 janvier, vous disiez dans la correspondance de la presse Emmanuel Kessler, l'audience n'est pas la finalité, mais 3 ans pile plus tôt, en janvier 2017, vous déclariez « il faut livrer la bataille de l'audience ». On a tous le droit de changer d'avis. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Non, en réalité, j'ai pas changé d'avis. Ce qui prime, c'est notre mission. Je vous l'ai expliqué, notre mission civique, citoyenne, politique. Mais c'est vrai que cette mission n'est réussie que si elle conquiert une certaine audience. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas l'audience en soi, c'est le fait que petit à petit, on investisse toutes les plateformes, qu'on soit un média global, qu'on soit un média intelligent, qu'on soit cette chaîne de service public qui est complémentaire de tout ce qui est ailleurs dans le PAF. Et depuis 20 ans, on a conquis cette place et on voit que petit à petit, on grignote de l'audience. Mais ce ne sera jamais l'audience qui détermine ce qu'on met sur la chaîne et sur Internet.
Merci beaucoup Emmanuel Kessler, président de Public Sénat. Bon anniversaire et gardez du champagne au frais pour Lise Pressac. Avant de retrouver...
Absolument, on le partagera ensemble avec vous et avec Lise et avec toutes les équipes.
On m'a dit donc, il faut prévoir plusieurs bouteilles. Alors, avant de retrouver Hélène Manarino et son journal de la culture...